l'enjeu qu'on a ici, c'est d'essayer de caractériser ce qu'on appelle l'instrumentalisation du secteur associatif, pour pouvoir en proposer des réponses à cette instrumentalisation, et pas uniquement des contestations, par exemple. Parce qu'en fait, quand on travaille sur le champ de liberté associative ou de la marchandisation dans les autres ateliers, je ne vais pas dire que... Mais c'est des thèmes qu'on travaille depuis longtemps. Il y a des groupes organisés qui y travaillent, et on peut dire aujourd'hui, par un observatoire, par du travail et d'études, comment on caractérise le champ de la marchandisation, à travers quels outils. Il y a beaucoup de littérature. En fait, ce champ de l'instrumentalisation, on en parle tout le temps. Et quand on mène depuis maintenant plus d'un an des enquêtes auprès d'acteurs associatifs autour de 5 questions invariables qu'on leur pose. Et c'est tout le temps, d'ailleurs c'est le thème de l'introduction du livre que j'ai fait sur quel monde associatif demain, enfin j'ai pas fait le livre, j'ai fait l'introduction, hein. C'est ce qui nous revient tout le temps, c'est cette question du mal-être et du sens de ce que l'on fait. À un moment on ne s'y retrouve plus, qu'il y a de l'épuisement, qu'il y a de la fatigue, qu'on ressent des divisions, qu'on ressent des concurrences, et peut-être que cette question, ce vécu d'acteur, il rejoint profondément cette question de l'instrumentalisation. Face auxquelles les associations sont peu outillées collectivement. Tu évoquais la mesure 30 du pacte pour la coalition, qui est une tentative, mais qui n'est qu'un élément, qui n'est qu'un outil pris ou pas, etc., mais en fait, généralement, qui n'est pas utilisé ou qui demande beaucoup de travail. Mais en fait, cette question de l'instrumentalisation passe par beaucoup d'autres éléments, et c'est peut-être de nos témoignages qu'on peut essayer de récolter, à commencer à serrer. De quoi on parle réellement quand on parle d'instrumentalisation, et comment est-ce qu'on peut... analyser ce qui se passe dans le secteur, dans nos associations, nos citoyennes qui sont engagées, qui sont militantes, qui veulent agir sur la société, et comment est-ce qu'on peut travailler peut-être sereinement et autour d'outils qu'on peut se donner. Donc ça, honnêtement, ça on l'a pas actuellement, hein. Mais par contre, on a une sensation qu'effectivement il y a un certain nombre de collectivités ou d'autres acteurs publics qui utilisent un peu les associations comme bon leur gré. Donc moi, je vais essayer, j'ai essayé de travailler ces derniers jours pour essayer de brosser ce que pourrait caractériser ce champ à travers une approche historique et d'où ça vient. À partir de quand on sent peut-être qu'il y a ces évolutions, donc il n'y aura peut-être rien de bien fondamental, mais de bien nouveau, mais se dire, voilà... Pourquoi aujourd'hui des acteurs associatifs, des professionnels, des élus municipaux nous parlent de cet entre-deux, un petit peu, entre une action publique, des associations qu'ils font sur le terrain, et peut-être des fois pas grand-chose qui se construit de fondamental entre les deux. Hein. Donc ça, je vais revenir sur les deux dénominations, entre autres. Donc je m'excuse, moi je prends une précaution, moi je suis un instit avec un bac et un CAP d'instituteur, donc je ne suis pas un universitaire qui a fait 50 ans de recherche, et je crois que c'est ça qui est important quand on travaille au CAC et dans les bouquins, c'est de se dire qu'il y a un savoir associatif qui est produit par des acteurs associatifs indépendamment du travail de la recherche, et voir où en sont les croisements et comment on peut se nourrir. Donc moi, ma parole, c'est plus celle d'un acteur associatif. Et donc, je vais commencer en évoquant, je vais essayer de faire assez rapidement, parce qu'on n'a pas 2 heures quand même, hein, et beaucoup de choses que vous connaissez, entre autres, Jean-Louis Laville l'a largement abordé ce matin. Mais quand Jean-Louis Laville parle dans ses livres, notamment un bouquin qui s'appelle L'Association, tout simplement, hein, Sociologie et Économie, à un moment, il utilise ce terme, il parle d'un code génétique. Il existe une sorte de code génétique, pas des associations, un code génétique de l'État libéral. L'État libéral s'est construit de cette manière qui fait que implicitement, il y a une prise de pouvoir, de la parole, de l'analyse sur ce qu'est le secteur associatif. Et si on le prend sous l'angle de l'instrumentalisation, moi je caractérise à travers 2 mots. D'une part, l'invalidation, dont il a parlé également ce matin, la non-reconnaissance, la méconnaissance ou le refus de reconnaissance de ce qu'apporte le secteur associatif, mais aussi l'encadrement du secteur associatif, d'où qu'il vienne. En comprenant bien que quand on parle d'association, ça il l'a peu évoqué ce matin, je trouve, parce que, voilà, on n'évoque pas tout non plus, mais quand on parle d'associationnisme dans la première période du 19e siècle, ce qui est significatif, c'est que cet associationnisme, il porte sur la question sociale. Il porte pas sur les... Il porte vraiment, c'est vraiment l'enjeu, et la question sociale à travers la question du travail. C'est-à-dire que ce qui est central dans les corporations qui existent, malgré la loi Chapelier, le Chapelier, etc., et tout ce qui est central, c'est la question de l'organisation du travail, et éventuellement de la revendication salariale. Hein? C'est Canut, par exemple, le prix de la vente des matières. Hein? Hein? Là, c'était... Et en fait, ce que revendique ce mouvement associationniste, c'est une sorte de cheminement démocratique. Dans l'économie, les associations, les personnes qui se regroupent dans ces corporations, elles parlent d'une démocratie économique. C'est le thème du mouvement pour l'économie solidaire dans les assises nationales dans ESS France, hein, qui interpelle sur la question de la démocratie économique. C'est une reconnaissance d'une forme d'économie qui n'est pas liée nécessairement à la possession d'un capital. Il existe des formes d'ateliers, d'endroits où on produit, on peut diffuser, on peut s'organiser, on peut s'auto-organiser pour produire, exister, mais sans lier ça à la possession de la machine d'outils. Aujourd'hui, si vous avez entendu des luttes comme le cinéma La Clé à Paris ou ces luttes-là, quand on parle des fiduciaires ou de la question de terre de liens par exemple et tout, c'est comment est-ce qu'on peut agir dans la société sans être propriétaire de son outil parce qu'un autre espace devient propriétaire de l'outil dans lequel on travaille. Donc ça, c'est des constructions qu'on a à avoir qui feront plutôt partie des ateliers de demain. Et à partir de 1848, la grande bourgeoisie, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, opère une prise en main sur ces questions-là. 1848 dit il faut stopper toutes ces émergences parce que derrière, l'État n'est plus reconnu dans sa centralité. On va plutôt opérer un tournant vers ce qu'on appelle la philanthropie associative. Ben, c'est des grands cercles bourgeois qui vont prendre la charité, les politiques de charité qui vont prendre en main ces questions-là. Et on glisse une question de démocratie, de rapport entre démocratie et économie, un rapport entre démocratie et directement le libéralisme. Aujourd'hui, dans ce monde économique, on prend la main et on renvoie à la sphère non marchande les associations qui se développent par un soutien de l'État, par exemple au XXe siècle et tout, mais sous une forme de mise sous tutelle. Il y a très vite une mise sous tutelle des associations. Certains parlent de l'offensive bourgeoise dans cette période-là, où l'État, lui, il devient protecteur face à la destruction du lien social qui est construit par les associations et qui ne s'exerce plus. L'État devient protecteur à travers une mise en œuvre de lois, de décrets, il légifère et... alors, on va trouver ça après sur les agréments, tout ce qui est mis en place, et qui construit quelque part la construction politique de ce qu'on appelle l'usager. L'usager, on devient des usagers de services rendus par des associations dans lesquelles, effectivement, par différents angles, la bourgeoisie a pris et a écarté la question du travail, a écarté la question de la revendication du travail. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette période historique, pour arriver plutôt sur la période qui nous concerne aujourd'hui, mais pour dire que s'il y a aujourd'hui un mur face à nous, c'est pas le mur forcément de mise en œuvre ou une loi pour améliorer, etc. et tout, c'est bien le mur d'une construction idéologique qui a son histoire, qui a son enracinement et qui a ses phénomènes de domination. À un moment, il y a une domination qui s'exerce sur la classe ouvrière, sur les classes laborieuses, à qui on ne reconnaît plus le droit de s'organiser pour discuter finalement de ce qui leur concerne, leurs conditions de vie, améliorer leur conditions de vie, mais qui va être sur comment est-ce qu'on peut gérer de mauvaises conditions de vie. Comment est-ce qu'on peut les améliorer, comment est-ce qu'on peut apporter des aides, la philanthropie étant une de ces réponses. Donc, c'est pourquoi moi, quand je traite de ça, quand j'essaie d'être au clair avec ce que je pense, moi j'utilise le mot de déni, hein. On assiste petit à petit à un déni associatif, un déni où on situe les associations dans ce qu'elles apportent à la société par leur contribution, mais on ne reconnaît plus l'apport à la société par la proximité avec des personnes, par ce qu'on appelle le lien social là. Par tout ce que l'on crée, ça, c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs qui est très peu dans les grilles d'évaluation des politiques publiques. On va nous demander combien vous avez de personnes, mais des fois, on disait, on n'a eu que 8 personnes présentes, mais voilà ce qu'on a fait avec ces 8 personnes. Et voilà ce qu'on construit, voilà ce qui se transmet, etc. Et puis, le deuxième déni, c'est le déni de reconnaître aux associations d'être des espaces autonomes, d'expression, des espaces d'interpellation, des espaces de construction du droit civique qui pourraient avoir cette place dans la société, mais à qui on ne le reconnaît pas. Elles le prennent si elles veulent, mais on ne leur reconnaît pas ni les moyens, ni les... Pour comparer avec nos amis belges, par exemple, où la loi de 1976, qui a été réécrite en 2001, mais qui a conservé le même principe, reconnaît dans ce qu'on appelle une association à but non lucratif, leur reconnaît le droit de critique des enjeux de société et de former les adhérents des associations à critiquer. C'est écrit dans la loi, et pour ça, ils sont subventionnés. Ça, cette question, ça, c'est des choses qui sont exclues. Et le contexte des années plus récentes, celles qui nous concernent, celles à partir des années 80, je passe tout ce qu'on a appelé la période des 30 glorieuses, etc. et tout, là on pourrait voir comment les choses se construisent. Mais en gros, on l'a tous à travers une phrase, par exemple cette période-là, qui est le « There is no alternative », hein, le célèbre Tina de Madame Thatcher. Les services publics coûtent cher, ils sont inadaptés, les associations subventionnées entretiennent une concurrence déloyale envers le secteur marchand, et tout ça, c'est pas compatible avec le dogme de la concurrence libre et non faussée. Donc, c'est sur cette base-là que s'est créé le CAC, d'ailleurs, pour faire reconnaître le côté non marchand, non lucratif des associations dans le droit français, dans le droit européen. Ça se traduit en France par des politiques publiques qu'on connaît tous à travers des sigles ou des... On sait que ça s'est passé comme ça. Le premier fait... Moi, je le note comme ça parce qu'on pourrait chercher avant, mais c'est ce qu'on appelait la LOLF, hein, en 2001, la loi organique relative aux lois de finances, qui complète... c'est une loi organique. C'est-à-dire qu'une loi organique, c'est une loi qui a fonction de compléter la Constitution. C'est pas une loi constitutionnelle, mais c'est pas une loi ordinaire. C'est une loi qui dit quelque chose qui est d'ordre constitutionnel. Elle s'impose à tout le secteur. Et cette loi organique des finances, la LOLF, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les associations, elles vont relever de dispositions qui vont relever d'une programmation financière pluriannuelle, d'une réflexion sur la définition d'objectifs par performance et de on disait qu'il fallait rendre compte à l'euro près hein, de l'argent utilisé, et puis une obligation à nous, associations, de voir mesurer notre impact, hein, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, hein, notre impact sur ce que l'on produit dans la société, à travers des grilles qui nous ont soumises, on connaît tous les grilles qu'on remplit d'évaluation, et l'effet direct de la LOLF, de cette loi, c'était de réduire le périmètre d'intervention des associations. On était enjoint à se resserrer sur... notre boulot, quoi. Ce pourquoi on vous paye. Ce pourquoi vous allez avoir une subvention. Vous voyez, je commence vraiment, je pense, à parler quand on parle d'instrumentalisation, et c'est pas tout nouveau, c'était le début des années 2000, qui a été complété en 2007 par la révision générale des politiques publiques, hein, la fameuse RGPP, confiée à des cabinets privés. Hein, et les cabinets privés prennent la main sur les associations en les contrôlant, disons, et la RGPP, elle donne des orientations. Par exemple, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça, c'est la RGPP. Le regroupement de services départementaux, les DJS, par exemple, la direction départementale jeunesse et sport, sont inclus dans ce qu'on appelle la cohésion sociale. Il y a un changement d'échelle. On dessine des grandes enveloppes, et dans ces grandes enveloppes-là, on rentre des corps de l'État. Des corps de l'État avec qui nous, associations, on travaillait au direct. Mais petit à petit, on ne travaille plus avec un directeur départemental, mais on travaille avec un préfet qui a sous ses ordres des services et qui prennent main sur les politiques associatives. Donc c'est un petit peu toute l'approche des américaines de ce qu'on appelle le New Public Management, hein, qui est de faire glisser, même sémantiquement, de citoyen, on devient usager, on devient client. On a ça dans les hôpitaux, on a ça dans tous les services publics. On nous incite à une culture de résultats qu'on doit quantifier. Et pour arriver à mettre en œuvre ces politiques, eh bien, on nous enjoint dans nos associations à embaucher des cadres qui ne seront pas forcément des cadres issus de nos métiers, des métiers de l'animation ou des métiers etc., mais des cadres issus du métier du management, des cadres qui vont pouvoir remplir les tableaux, pouvoir répondre et donner des garanties aux politiques publiques. Parce que, je ne vous parle même pas s'il fallait susciter des financements européens, hein, on ne parle même pas de ça. Hein. Et pour les associations, eh bien, ça amène d'une part des pertes de liens avec les administrations elles-mêmes. On n'entretient plus le même rapport à l'administration, puisqu'on est dans un rapport de réponse à une commande, à une attente, et donc l'expression de dire bah oui, mais nous on fait non, maintenant les programmes laïcité, il faudra passer par une formation laïcité, etc. Vous voyez, et bien remplir le cahier des charges, voir la Fédération des centres sociaux à Poitiers, hein, si on ne remplit pas bien ce cahier des charges, voilà les formations, ça c'est un petit exemple, une perte de dialogue, plus généralement, avec des procédures administratives automatisées, des cadres qui nous sont imposés, une perte de ligne budgétaire. Par la concentration des programmes, bien sûr, quand on nous met dans la cohésion sociale, on devient avec d'autres, on vient en concurrence avec des acteurs du privé, avec d'autres organismes qui sont sur le même. Et en fonction, on met le curseur, on n'a pas des financements parce qu'on va être plus ou moins opérationnel, plus ou moins. Et puis, une perte de financement pour les petites et moyennes associations au bénéfice des grosses structures. Il faut s'en regrouper, y compris le dernier plan du gouvernement, enfin, c'était de Gabriel Attal, hein, le plan pour la vie associative, qui dit voilà. En gros, il faut s'en regrouper, cette phrase de Jean-Marc Borrello. Dans 10 ans, il y aura 10 fois moins d'associations, mais elles seront 10 fois plus grosses. L'attention n'est plus portée, le rapport à l'emploi, par exemple, les petites associations, les contrats aidés, par exemple, ce sont principalement les petites associations qui ont morflé, parce qu'elles se retrouvaient sans rien du jour au lendemain. Alors, évidemment, quand le CAC s'est constitué, il s'est constitué par rapport à la circulaire Fillon, qui nous amenait à faire des associations de simples prestataires de services dans lesquelles on s'inscrivait dans des commandes et dans lesquelles on pourrait dire pratiquement on rentre dans des politiques de tarification à l'acte. Faut s'en rendre compte. Et l'État, ce qui prédomine à partir de maintenant, c'est l'État bureaucratique. C'est dans ce cadre-là qu'on a cet enjeu de voir, mais bon, on décrit ça, d'accord, il y a des politiques nationales. Mais concrètement, par quoi ça se caractérise? Quels sont les effets sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le rapport à l'État ou à la collectivité est différent dans notre capacité d'interpellation? Pourquoi on s'est constitué au départ de dire des choses sur la place publique? On passe dans des champs de... Aujourd'hui, on utilise les termes de régulation de l'action publique, pas comment elle s'exerce. On passe d'un champ où on était dans des champs négociés d'action associative à des champs de régulation qui sont des champs de concurrentiels ou des champs contraints. On nous enjoint de mettre en œuvre des politiques. Alors, en disant tout ça, moi je veux toujours garder la dénaturation historique du 19e siècle de ce qu'était le champ associatif. Aujourd'hui, on est rentré dans d'autres champs qui sont le champ du social, le champ d'aide à la personne, le champ des droits culturels, on prend partout les bouts, etc. Mais à tout moment, on a ce recul sur notre capacité à développer nos propres actions, nos propres projets, notre propre parole. Nous-mêmes, en tant que collectif des associations, on était au ministère le mois dernier, parce qu'on est toujours en attente de la négociation de notre subvention triannuelle. On a pluriannuel, on en a plus, et la première chose que des élus recontactent au ministère, donc troisième fois qu'on le rencontre, on est dans la phase, bon, tout est bloqué au ministère, il y a 250 associations qui sont dont les financements et les subventions sont bloqués, on nous dit, mais vous nous rendez la tâche difficile, parce que on a vu votre communiqué d'entre les deux tours depuis des élections législatives, et ça nous aide pas. Ça nous aide pas d'avoir en face de nous un ministre qui aura vu que vous opposez service à universel, vous vous opposez au contrat d'engagement républicain. Et moi, il faut que je présente vos dossiers de subvention. Quels éléments vous me donnez pour vous le présenter et qu'il ne soit pas retoqué? Vous voyez que, où ça amène. Donc, on est donc dans cette société moi je pourrais nommer de tarification à l'acte. On est face à des actions qu'on est enjoint de mener et donc qui limitent le droit d'exercice associatif. Donc on peut dire qu'aujourd'hui les associations n'ont plus la voix VOX, mais n'ont plus la voix VOIE pour travailler et s'exprimer sur la structure même de la société. Comment on pense la société, comment on pense pouvoir agir dedans, et comment est-ce qu'on peut être des acteurs d'une société de progrès, de l'émancipation. Et conjointement à ça, à tout ça, il y a les menaces récurrentes qui sont à mon avis un autre champ d'instrumentalisation, qui sont tout ce qui pèse aujourd'hui sur l'emploi associatif. Donc à côté de la raison d'être, pour reprendre ce terme, des associations et la volonté utopiste, peut-être qu'on utopique, qu'on peut avoir de vouloir agir encore en portant des valeurs, des idées, en pensant qu'on peut faire évoluer des politiques publiques. À côté de ça, il y a une sanction directe qui est celle qui pèse sur les salariés du monde associatif. D'une part, on a recours aujourd'hui à des personnes sans emploi et pas toujours qualifiées pour réaliser les tâches face auxquelles elles sont. C'est vraiment le cas dans l'enfance, dans l'action sociale. Ma fille est éducatrice spécialisée dans un foyer, dans un gîte pour enfants, et aucun des salariés n'a de formation d'éducateur spécialisé. Aucun. C'est elle qu'on a le plus parce qu'elle est formatrice, elle est assistante, elle est aide-soignante. Les salariés n'ont pas de. Il y en a un qui est gardien de prison. Il était gardien de prison. Il arrive dans le champ sans avoir les codes et les compétences. Et voilà. Et à côté, dans ce que revendiquent les associations, y compris quand on parle d'emploi et d'emploi dans la société, c'est l'émergence de nouveaux espaces. On parle des territoires zéro chômeur, on en parlera demain. De nouveaux espaces, on peut travailler peut-être cette question de l'emploi dans la société dans laquelle on a des choses à apporter. Voilà. Donc, je conclurai juste en disant que aujourd'hui, peut-être. Pour moi, l'enjeu d'atelier, c'est comment est-ce qu'on peut penser l'association aujourd'hui. À la fois, d'une part, une remise en cause de la séparation qui est opérée entre l'action publique et la société civile que l'on incarne. Deuxième, c'est un ensemble de droits mis en cause, une solidarité en acte qui sont nos outils et comment est-ce qu'on travaille à pouvoir être des acteurs de cette solidarité en acte et donc peut-être construire le droit qui nous permet d'en être les acteurs. La question démocratique à travers une nouvelle citoyenneté à exercer qui est donc un des enjeux que l'on a peut-être à défendre et qui est une des raisons pour lesquelles on a besoin de pouvoir mener nos actions en toute autonomie et indépendance, et puis les actions des espaces comme des pour une économie plurielle distante du marché qui existe dans une société de marché, hein, une société concurrentielle, mais qui existe par d'autres valeurs, qui existe l'a évoqué Bruno, dans une dimension territoriale, en maîtrisant un petit peu tous les aspects des partenaires qu'on peut avoir, dans une économie de distribution, une économie solidaire affirmée, et quelle place on peut prendre dans ces questions-là. Et donc, quelque part, encourager la dimension aussi économique, la question démocratique des associations, tout en reconnaissant leur finalité politique, et en réhabilitant cette finalité politique.